grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le grand dialogue.
Quelle analyse du retrait annoncé de certaines forces de la MINUSMA? Plusieurs pays ont décidé du retrait progressif de ces forces militaires et policiers au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA. Il s'agit notamment de la Côte d'Ivoire, le Royaume-Uni, l'Égypte, le Bénin et la Suède. Si pour certains, la décision s'explique par le rapprochement de Bamako à Wagner, la Côte d'Ivoire, elle n'a pas évoqué des raisons valables. Quelle explication à ce retrait? À quoi faut-il s'attendre après ce retrait? Studio Tamani pose donc le débat avec ses invités. Paul Oula, analyste sécuritaire, Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, et Dr Ali Tunkara, spécialiste des questions sécuritaires, directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, qui sera au téléphone. Je suis Imran Akilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
Paul Oula, dites-nous, quelle analyse faites-vous de ces retraits annoncés?
Ok, merci M. Maïga. Merci de m'avoir invité. Bon, au fait, vous savez, moi, à mon analyse, je pense très sincèrement que le retrait des forces ivoiriennes au Mali s'explique de deux manières. La première, c'est que, vous savez, depuis le mois de juin passé, il y a eu une bouille diplomatique entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire, qui trouvait sa source dans le déploiement de quelques éléments des forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire sur le territoire malien, sans le consentement du gouvernement. À partir de cet instant, il est à constater qu'une tension diplomatique s'est installée entre les deux gouvernements. Et du coup, les 49 soldats ont été interpellés par le gouvernement malien. Et du coup, voilà, la tension s'est attisée. Malgré les négociations entre les deux gouvernements, il est à noter que la négociation s'est soldée par un échec très patent. Voilà. Donc, partant de là, on peut réellement constater que, est-ce que d'une part, la Côte d'Ivoire n'a pas jugé nécessaire de retirer ses forces par le fait que le gouvernement aurait refusé de libérer ses forces de défense et de sécurité, d'autant plus que Barkhane aussi a annoncé son retrait sur le territoire national et aussi sur la région du Sahel même en tant que telle. Et partant de là, faut-il aussi constater que d'autres forces qui étaient déployées dans le cadre de la MINUSMA aussi ont annoncé leur retrait. Nous avons vu le cas de l'Égypte, même la fermeture de l'ambassade de la Tchécoslovaquie au Mali ici, ainsi que les forces qui étaient aussi déployées dans le cadre de la MINUSMA, et aussi le cas de l'Égypte. Donc, est-ce que d'une part, la Côte d'Ivoire ne se dit pas que peut-être que... est-ce que la MINUSMA est une, ça dit, sera, comment on appelle, a une fin? Est-ce que ce déploiement va déboucher sur une situation plus ou moins heureuse? Voilà. Donc du coup, je pense très sincèrement que c'est partant de ce constat que la Côte d'Ivoire a essayé de retirer ses forces. Et deuxièmement, moi je pense aussi très sincèrement que est-ce que ce n'est pas aussi la volonté de l'État ivoirien de redorer le blason de son dispositif militaire sécuritaire sur le plan national, c'est-à-dire sur le plan interne, d'autant plus que vous savez que la Côte d'Ivoire partage aussi une grande frontière avec ce qu'on appelle le Libéria, qui est aussi une frontière très poreuse. Donc, il y a aussi une méfiance entre les officiers des forces de défense et de sécurité ivoiriennes entre ces officiers, il y a une méfiance, il y a une paix précaire qui se manifeste sur plusieurs dimensions. Voilà. Et encore, vous savez aussi que il y a eu aussi l'annonce de la situation sanitaire du président qui demeure jusqu'à présent un nœud gordien pour la classe politique. Donc du coup, il y a tous ces jeux-là qui font que, est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire ne tire pas sur ces ficelles-là pour essayer de se repositionner sur le plan interne afin de renforcer sa sécurité interne.
Vous évoquez une crise diplomatique qui pourrait être l'une des raisons de ce retrait des forces de la Côte d'Ivoire. Et pour les autres pays, notamment le Royaume-Uni, l'Égypte et le Bénin.
Oui. Bon, pour les pays de l'Occident, vous savez, l'Occident en tant que tel, si nous prenons l'Occident en tant qu'une région, en tant qu'une entité du monde, il est très nécessaire, il est très perceptible de voir que, vous savez que l'Occident en tant que tel a une diplomatie plus ou moins homogène à l'interne, ce qui découle de l'Union européenne. Bon, si vous voyez que la plupart des pays de l'Union européenne sont en train de se retirer sur le théâtre malien, c'est que il faudra aussi comprendre que cela peut être dû par le fait que Barkhane aussi a décidé de quitter le terrain. Et aujourd'hui, cette tension politico-diplomatique qui existe entre la France et le Mali constitue une menace diplomatique pour les autres pays qui semblent être derrière la France. Alors, si la figure de proue est tombée ou ne s'entend pas avec les partenaires, alors je pense que la porte sera grandement ouverte pour les autres partenaires. C'est partant de ce constat que peut-être les autres pays européens aussi ont claqué la porte. Ils voient dans l'avenir qu'il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas de perspective sur le plan politico-diplomatique, sur le plan sécuritaire, sur le plan de relations multilatérales et bilatérales entre ces différents pays-là. Une raison de plus valable pour ces pays-là de se retirer.
D'accord. Mohamed Ben Mamadou Touré, pour Paul Oula, une crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali serait l'une de cette décision de retrait. Et pour les autres pays, la crise diplomatique entre Bamako et la France serait également l'une de ces décisions de ces autres pays. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Effectivement, comme il vient de le dire, le départ de la force Barkhane va beaucoup jouer sur le départ de ces États qui sont là, surtout le Royaume-Uni qui est un pays de l'Union européenne et puis c'est un pays membre de l'OTAN aussi. Donc l'OTAN est contre la présence des mercenaires ou bien je ne sais pas, des formateurs dits russes qui sont chez nous. Parce qu'ils ont fait une mise en garde en demandant au Mali de ne pas coopérer avec ce groupe Wagner qui se trouve sur le territoire malien. Donc il fallait que nous nous attendions au départ de tous les pays amis de la France, surtout européens, que le jour où ils vont dire qu'ils vont aller, que ça ne soit pas une surprise pour nous, Maliens, qu'on s'attende à tout cela. En ce qui concerne le cas de l'Égypte, on sait que l'Égypte, l'armée égyptienne est majoritairement financée par les États-Unis d'Amérique et ils sont formés par les Américains aussi. Donc l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, étant un membre influent de l'OTAN aussi, ne va pas laisser les pays dont lui, il investit dans leur armée de venir se mettre dans des positions qui ne sont pas les leurs. Donc l'Égypte est obligée d'être sous la pression des États-Unis d'Amérique pour retirer ses troupes du Mali. Bon, quant au Bénin, on voit le djihadisme est en train d'évoluer dans la zone du Golfe aussi, dont le Bénin fait partie. Il y avait eu même quelques attaques là-bas. Donc pour sécuriser leur territoire, donc ils sont en manque d'effectifs et puis ils ont besoin de leurs hommes là-bas. Au lieu de venir te battre chez quelqu'un alors que tu as le même problème, pourquoi ne pas rester chez toi pour essayer de préserver, de défendre ton intégrité? Le cas ivoirien, bon, c'est le cas le plus complexe, on peut dire. Parce que depuis, avec l'arrestation des 49 militaires qualifiés à un moment de mercenaires, et puis on les attribue encore le nom de militaires ivoiriens arrêtés, donc le mercenariat a disparu. Donc, avec la négociation, comme Faure Gnassingbé étant le médiateur dans ce truc, il n'y a pas eu d'accord. Donc, il y a eu tellement trop de tiraillements, et puis la judiciarisation situation du dossier aussi, ça crée une tension diplomatique que les autorités ivoiriennes n'ont pas du tout apprécié de la part des autorités maliennes. Donc les Ivoiriens, ils feront pire que ça. Peut-être moi, je crains un jour qu'ils ne disent pas que même leur ambassadeur aussi rentre chez eux et quitte le territoire malien dû à la tension qui existe entre le Mali et la Côte d'Ivoire due aux 49 militaires arrêtés.
Est-ce que ces retraits étaient prévisibles?
Bon, tout est prévisible parce qu'il faut s'attendre à tout en ce moment difficile du pays. Parce que nous avons dans ce pays, le Mali, nos autorités ont fait des coups de coude avec tout le monde. Ils se sont mis en face ou bien contre tout le monde. Donc, seul, on ne peut pas combattre tous. Donc, eux, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils cherchent. Donc, ils vont essayer de se mettre ensemble pour essayer de nous enfoncer de plus. Donc, vu l'étendue de du territoire, donc c'est des pays surtout très proches de la France, je peux dire. Donc c'est des pays qui sont aussi sous le contrôle de la France et ils ne peuvent pas refuser au dictat de la France aussi. Donc,
la Côte d'Ivoire a affirmé que ces soldats qui seront retirés du Mali seront prêts à être utilisés dans d'autres pays dont la mission des Nations Unies y est. Est-ce que cela est possible?
Mais cela est possible parce qu'il y a un problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Si ce problème de 49 militaires n'était pas là, la Côte d'Ivoire n'allait jamais retirer ses troupes. Et si vous voyez que la Côte d'Ivoire dit que ces hommes peuvent aller ailleurs, ça veut dire qu'ils préfèrent ailleurs mieux que le Mali parce qu'il y a un problème au Mali, un problème diplomatique entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire. C'est juste ça.
D'accord. Y a-t-il des conditions d'engagement et de retrait des troupes dans les missions de maintien de la paix de l'ONU?
Oui, il y a effectivement des conditions. La première, c'est d'abord, faut que le pays qui envoie ses troupes sur le territoire étranger, sur le territoire sur lequel il y a la crise, il faut que ce pays-là soit membre de l'Union, de l'ONU. C'est d'abord la première condition. Deuxièmement, il faut que ces forces soient aussi enrôlées sur le plan national, que ce soit, c'est-à-dire des forces issues des forces régulières du territoire, c'est-à-dire du pays qui envoie sur. C'est-à-dire qu'ils soient enrôlés, voilà, de manière régulière dans la base de données de leur armée. C'est deux conditions imminentes qu'il faut pour qu'un pays puisse déployer ses forces dans le cadre des opérations de maintien de paix.
Est-ce que cela donne le droit à ce pays-là de décider du retrait à tout moment de ses troupes
oui,
au sein de la mission?
Vous savez que les pays sont non seulement souverains, mais lorsque ces pays envoient leurs militaires dans le cadre des opérations de maintien de paix, ces pays ont la latitude de pouvoir les retirer au moment voulu, au moment où ce pays-là pense que actuellement, ils sont au moment où ces pays pensent qu'ils ne sont pas à mesure non seulement d'assurer leur rôle de maintien de paix ou autre raison que ce soit. Ouais.
D'accord. Est-ce que cela donne le droit également à ce pays de mettre fin à sa participation automatiquement comme il le veut?
Bon, vous savez, le retrait des forces ne se fait pas de manière imminente. Ça se fait ce qu'on appelle, c'est-à-dire de manière discursive ou de manière progressive. Cela se passe comment? Ça passe par, c'est-à-dire, le fait de connaître avec exactitude le nombre de militaires déployés sur le terrain, l'unité de rattachement de ces forces de défense. Ensuite, le moment pendant lequel le pays veut que ces forces-là quittent. Cela peut se... ça s'étaler sur un long temps. Voilà. Ça se fait de manière discursive.
D'accord. On me signale que Ali Tunkara ne répond toujours pas d'abord au téléphone. Alors, on reste toujours avec vous d'ailleurs. Concrètement, que disent le texte par rapport au retrait des forces de maintien de paix?
Bon, au retrait des forces au retrait des forces de... Des pays qui ont déployé, c'est-à-dire leurs forces de défense dans le cadre des opérations de maintien de paix. Vous savez, les opérations de maintien de paix ne sont pas aussi les mêmes. C'est-à-dire, c'est des trucs qui sont souvent aussi taillés sur mesure. Par exemple, vous avez des forces des forces de défense qui jouent le rôle de maintien de paix, par exemple, au Congo, au Liban et au Mali. Je prends juste quelques exemples. Ces forces n'ont pas les mêmes rôles. Pour le cas malien, on parle de stabilisation. Dans la stabilisation, nous avons plusieurs volets qui entrent d'emblée dans le jeu. Vous avez le volet humanitaire, le volet politique, le volet de réforme institutionnelle, ainsi de suite. Alors que dans d'autres pays, vous avez vu que ces forces-là sont dotées de mandats robustes, tels que le cas de la MONUSCO au Congo, qui combat les forces qui sont en porte-à-faux avec les forces irrégulières congolaises. Tel n'est pas le cas au Mali. Le mandat semble être très flou. Du coup, ce n'est pas du tout compréhensif.
D'accord. Mohamed Ben Mamata, est-ce qu'un pays doit mettre fin à sa participation à une mission de maintien de paix parce qu'il ne partage pas le choix de partenaire de cet État ?
Bon, Paul vient de le dire, si le pays est souverain, le pays a le droit de le faire. Et puis si les textes des Nations Unies aussi le prévoient, donc je ne vois pas de solution pourquoi les pays ne prennent pas leur responsabilité de le faire aussi.
D'accord. Est-ce que la décision, la tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez évoqué, peut expliquer la décision des autorités ivoiriennes de mettre fin à la participation de ces soldats, non seulement policiers, mais également militaires?
Mais ça, n'en doutons même pas. Ça, c'est un fait qui est là, c'est une réalité qui est là, qui ne se discute même pas. Donc avec toutes les négociations, les médiations, les tractations, et puis la judiciarisation du truc, tout le monde a parlé, mais jusqu'à preuve de contraire, on ne parvient pas à s'en sortir. Donc les Ivoiriens aussi, ils se disent pourquoi nous avons 40 et quelques militaires qui sont emprisonnés au Mali et nous laissons nos soldats aussi sur le territoire malien mourir pour le Mali ou bien pour les Maliens. Là, on ne va pas se laisser faire aussi. Donc, ils font le retrait direct de leurs troupes.
Ce retrait annoncé serait-il des moyens de pression sur les autorités maliennes ?
Bon, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas une pression, mais c'est pour montrer leur mécontentement dû à la crise diplomatique qui est entre les deux pays. Donc, c'est une façon de montrer aux autorités maliennes qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec eux et qu'ils ne peuvent pas être sur le territoire étant que d'autres fils du pays sont dans des mains et des Maliens aussi.
Ce retrait pourrait-il fragiliser l'aménagement ?
Mais bien sûr, même s'il y a deux militaires ou deux policiers de l'aménagement qui tombent aujourd'hui, ça peut fragiliser le mouvement parce que c'est des gens qui sont là. Donc comme beaucoup de gens parlent de l'aménagement, mais ils ne savent vraiment pas réellement ce que les différents contingents des pays sont en train de faire. Donc s'ils sont là, bon, comme on dit que l'aménagement c'est une force d'interposition, sûrement que les militaires ivoiriens, ils servent de quelque chose ici. Et tous les autres États, c'est pareil. Donc, chaque pays joue un petit rôle. Et si ce pays se retire, c'est un manque qui est là. Donc, comment faire pour combler ce manque ou bien ce vide aussi ? Donc, il y a un problème.
D'accord. Est-ce que cela est dit du fait que les pays décident de retirer ? Est-ce que le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix ne peut pas s'y poser ? À ce retrait-là ?
Je ne pense pas. Pourquoi ? Dans la mesure où les pays sont souverains. Et vous savez qu'on ne force pas un pays à déployer ses troupes dans le cadre des opérations de maintien de paix. C'est le pays en question qui juge nécessaire et utile de déployer ses forces de défense et de sécurité dans le cadre des opérations de maintien de paix. Alors, si ce pays décide de retirer ses forces, le secrétaire général des Nations Unies ne peut qu'approuver.
Il n'y a pas de règlement de refus ?
S'il y a de règlement, ça sera d'ordre politique. Peut-être que le secrétaire général peut engager des négociations ou des dialogues entre le pays et le pays qui a décidé de retirer ses forces et le pays qui reçoit. C'est juste des ficelles diplomatiques qu'on peut juste tirer en bas. Sinon, il n'y a pas question de sanctionner un pays qui a décidé de retirer en toute souveraineté ses forces de défense déployées dans le cadre des opérations de maintien de paix.
Alors, quelles pourraient être les conséquences de ce retrait sur l'aménagement ?
Bon, les conséquences sont nombreuses. Premièrement, vous savez que les forces, l'ONU, à vrai dire, n'a pas d'armée. L'ONU se sert, c'est-à-dire de ses États membres, pour déployer les forces de défense dans le cadre des opérations de maintien de paix. Maintenant, les conséquences peuvent être énormes. D'abord, sur le plan national, premièrement, ça permettra, c'est-à-dire, d'isoler un peu le Mali sur le plan diplomatique. Ça veut dire que le Mali n'est pas seulement en guerre, pas en guerre, mais en tension diplomatique seulement avec ses pays voisins, mais aussi avec l'ONU. C'est un premier point. Le second point, c'est quoi? C'est que nous avons aussi beaucoup de programmes qui sont actuellement en train d'être mis en œuvre par l'aménagement, seront écourtés dans le temps. Donc, du coup, s'il y a des obstacles ou s'il y a des problèmes ou des conséquences, ces conséquences ne peuvent être que ça. Sinon, quand on essaie de faire juste quelques sondages, il est très pertinent de voir que actuellement la population malienne n'est pas satisfaite du résultat produit par l'aménagement.
Parlant de résultats du bilan de l'aménagement, est-ce que l'aménagement joue réellement son rôle de gardien de stabilisation au Mali?
Bon, c'est ça effectivement le problème. Parce que vous savez, depuis le premier mandat de l'aménagement, il y a eu beaucoup de débats autour du mandat qui devrait être attribué à l'aménagement. On a parlé d'un mandat robuste au départ qui, même si cela a été accordé, ne s'est pas du tout matérialisé au Mali. Donc du coup, les Maliens voient à l'aménagement une force d'interposition, et non comme une force d'imposition de paix ou une force qui est capable de neutraliser les djihadistes ou les groupes terroristes, c'est-à-dire qui sont contre l'intégrité du territoire malien. Donc du coup, il faudra comprendre effectivement que le bilan de l'aménagement n'est pas à la hauteur du souhait. Et sur le plan politique, vous avez vu qu'il y a actuellement une ébullition politique sociale. Beaucoup d'organisations de la société civile, en l'occurrence la société civile juvénile, est en train de combattre la présence de l'aménagement au Mali. Donc, est-ce que dans ce contexte de turbulence, est-ce que l'aménagement pourra réellement jouer sa partition dans le cadre du processus de restauration de la souveraineté de l'État? Moi, à mon humble avis, je ne pense pas. Parce que quand vous essayez de voir un peu au niveau du centre, les gens boudent. La présence de l'aménagement, c'est un problème. Quand vous essayez de voir un peu aussi à l'est et au nord du Mali, telles que les zones comme Gao jusqu'au niveau de Kidal, la présence de l'aménagement est pratiquement contestée. Et aujourd'hui, nous voyons que la zone de trois frontières est en train de traverser des périodes très difficiles sur le plan sécuritaire. Vous n'êtes pas sans savoir que les zones de Tessit, de Menaka, aujourd'hui sont en train d'être proie de plusieurs attaques provenant des groupes djihadistes, ce qui veut dire que réellement la situation sécuritaire reste très alarmante et urgente.
Est-ce que ce bilan de l'aménagement n'a pas aussi sa part de responsabilité dans ce retrait annoncé des différents pays?
Bon, pas que le bilan, mais il faut juste comprendre que l'aménagement est là pour un rôle. Donc il faut vraiment spécifier cela. Et nos autorités n'ont jamais pu communiquer sur cela pour nous dire l'aménagement est quel type de force. L'aménagement, on nous a dit que c'est une force d'interposition. Et toutes les missions des Nations Unies.
C'est quoi le rôle d'une force d'interposition?
Une force d'interposition est venue, ce n'est pas pour combattre le terrorisme ou le djihadisme. Ils sont venus juste pour s'interposer entre le Mali et les groupes signataires de l'accord. C'est ça le rôle de l'aménagement. C'est ce que veut dire la force d'interposition, en ce que je sache.
Est-ce que ce rôle-là a été joué?
Bon, ce rôle a été joué parce que présentement à Kidal, si l'aménagement n'est pas à Kidal, la manière dont nos militaires sont cantonnés dans le camp, là, on va trouver que ce n'est pas ça. La présence des militaires maliens n'y seront pas aujourd'hui sans l'aménagement. À Tombouctou, à Gao, pareil, partout où ils sont présents, ils sont là juste pour être une force d'interposition afin qu'il n'y ait pas d'affrontement entre l'armée malienne et puis les groupes signataires de l'accord ou certains groupes rebelles, on peut dire comme ça. Donc vous savez, toutes les missions des Nations Unies, leur échec c'est quoi? On nous dit chaque fois que c'est des missions de maintien de la paix. On ne maintient pas la paix. Il faut qu'il y ait une mission de maintien d'ordre. Donc, maintien, avec la, le.
Quelle est la différence entre maintien de la paix et maintien d'ordre?
Maintien de la paix, ça veut dire que vous venez juste dans un cadre purement humanitaire. Donc, vous allez faire comme les ONG, vous allez les aider en les donnant à manger, à boire. Donc, essayer de choisir et puis les accompagner dans le cadre politique et autres. Mais vous n'allez pas vous battre comme ça se doit. Bon, dans une mission de maintien d'ordre, là, vous allez combattre comme les autres forces qui sont là. Donc maintenant, parce qu'il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a les militaires aussi qui sont là. Mais avec la MINUSMA aujourd'hui, on dit que c'est interdit à un militaire de la MINUSMA de tirer sur qui que ce soit si la personne ne met pas le doigt sur la gâchette et puis essayer de tirer sur vous. Donc ça, c'est les inconvénients, je peux dire, du maintien d'ordre. Si c'est du maintien de la paix, pardon. Si c'était le maintien d'ordre, le gars de l'aménagement ne va pas attendre à ce que tu mettes le doigt sur la gâchette pour essayer de tirer sur lui. Donc, c'est cette partie qu'il fallait clarifier. Donc, chaque fois, on dit mission robuste, mais c'est la même mission qui continue. Il n'y a pas de changement. Et moi, souvent, je me pose la question, avec tout ce brouhaha qui se passe, les gens qui sortent pour dire qu'on va chasser l'aménagement d'ici, les autorités, ils sont là à dire que nous voulons le renouvellement du mandat de l'aménagement. Nous voulons qu'il y ait ce changement ou qu'il n'y ait pas ce changement. Et aujourd'hui, il faut comprendre que l'aménagement aussi est limité dans ces mouvements. Donc tout ça, là, ça provoque un problème. Avec l'intervention de nos autorités à la tribune des Nations Unies, ils avaient interdit aux militaires de la MINUSMA de faire des mouvements jusqu'à un certain endroit, quoi. Donc, parce qu'il fallait clarifier certains détails. Donc, ce qui pose un problème entre la MINUSMA et puis le Mali aussi. Bon, tout ceci peuvent être des petites causes aussi du retrait de certaines troupes.
D'accord. Faut-il s'attendre alors à ce que d'autres pays se retirent leurs forces de maintien de la paix au sein de l'aménagement?
Mais c'est ce que je vous dis. Tout ce qui va se passer comme retrait, là, que ça ne surprenne personne. Moi, j'étais tellement dépassé de l'intervention de l'ambassadrice ou de la représentante russe là-bas quand elle disait que la seule chose qu'elle regrette, les pays qui disent qu'ils vont quitter le Mali pour aller. Mais nous disons que la Russie, c'est un partenaire stratégique, c'est un partenaire fiable. Au lieu de faire des petits communiqués, moi, je crois que l'État de Russie doit faire quelque chose maintenant pour remplacer cet effectif qui s'en va. Mais si ça ne se fait pas, si le partenariat ne se limite que nous achetons les armes avec vous et que le partenariat ne se limite qu'aux petits discours ou aux petits mots tenus devant le monde, ça, nous ne pouvons pas le comprendre. Même pour le renouvellement du mandat dont le Mali est demandeur, la Russie, qu'est-ce que la Russie a fait pour accompagner le Mali? La Russie pouvait dire au Mali, non, il faut arrêter ça. Nous allons imposer notre droit de veto et nous allons remplacer les hommes de la MINUSMA que les Nations Unies vous donnent. Nous allons envoyer des forces russes, mais rien de cela n'est fait. Donc, ce que moi, je veux juste dire aux Maliens, et puis ce que nous devons comprendre, il ne faut pas qu'on se laisse embobiner que les Russes nous donnent un espoir et puis nous lâcher seuls, comme ils l'ont fait à Kadhafi, en Libye. Ils étaient avec Kadhafi quand l'OTAN avait commencé à frapper. Ils ont pris la tangente, comme la Chine aussi. Donc, il faut que nous nous assumions et que nous soyons nous-mêmes. Coopération, certes, mais ne nous laissons pas faire aussi.
D'accord. Alors, comment combler le vide que vont laisser ces forces étrangères au sein de l'aménisme?
Vous savez, le gouvernement malien est resté dubitatif sur le problème de l'aménisme.
Comment?
À mon humble avis.
Comment?
Le gouvernement n'a jamais dit que la présence de l'aménisme au Mali ne servait à rien. Pas, moi, je n'ai jamais entendu ça. Le gouvernement a toujours opté à ce qui est, c'est-à-dire un mandat adapté au prorata du besoin du peuple malien. Mais, vous voyez, chaque fois que le Mali a eu l'occasion de se prononcer au niveau international, le Mali parle toujours d'un mandat robuste. Ça veut dire d'une part que le Mali pense réellement que la MINUSMA peut être utile pour la préservation de la paix au Mali. Donc dans ce cas, je pense qu'il y a une dichotomie totale entre les organisations de la société civile dites hostiles à la présence de la MINUSMA et l'État malien.
D'accord.
Voilà.
Je vous donne la parole tout de suite. On me signale que jusqu'à présent, Ali Tunkara ne décroche pas encore le téléphone. Alors, vous pouvez continuer avec votre logique.
D'accord. Donc, maintenant, la présence de la MINUSMA aujourd'hui peut ne pas être une solution. Dans la mesure où, si le gouvernement malien a pu prendre à bras le corps la question sécuritaire au regard de tous les défis qui s'imposent. Vous savez que le Mali est un pays extrêmement vaste, avec moins de population. Les densités sont très faibles, surtout au niveau du nord. Alors, est-ce que dans ce contexte, on est en mesure de sécuriser tout le territoire national? C'est une question hautement stratégique, mais aussi politique, qu'il faudra se poser. Est-ce que le Mali est en mesure de combler ce déficit-là? Première question. La seconde question, c'était quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple malien est aussi prêt à accepter la MINUSMA comme telle? C'est ça le problème. Vous savez, c'est-à-dire la présence justifiée de la MINUSMA obéit aussi à la légitimité du peuple malien. Tant que le peuple malien ne veut pas de la MINUSMA, il sera très difficile pour la MINUSMA d'opérer au Mali ici. Ça, c'est un problème. C'est un problème qu'il faudra réellement prendre en compte. Donc moi, je propose que le gouvernement malien se prononce sur cette question cruciale. Que le gouvernement malien dise au peuple malien réellement, est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons prendre notre destin en main en nous basant sur notre propre souveraineté, en nous basant sur nos forces de défense et de sécurité, à assurer la protection du peuple malien. Sinon, dans le cas échéant, on devrait aussi collaborer avec des autres partenaires. Voilà.
Donc, dans ces conditions, faut-il se retourner vers d'autres pays pour remplacer ces troupes de l'aménagement qui vont partir?
Bon, moi-même, je pense très sincèrement que ce départ précipité des autres forces de l'AMINUSMA vont entraîner, c'est-à-dire la disparition même de l'outil opérationnel de l'AMINUSMA. Pourquoi? Parce que vous savez que la division opération et stratégique de l'AMINUSMA est particulièrement dirigée par la France. Et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que la France a non seulement et retirer ses troupes au Mali, mais elle a aussi l'intention de retirer toutes ses forces dans tout le Sahel. Donc du coup, les autres forces et partenaires qui sont rattachés à ce commandement-là, comment est-ce qu'ils vont percevoir la vision stratégique et de défense de l'AMINUSMA? Donc du coup, je pense que ça va provoquer un annihilement total et une disparition totale de la MINUSMA, mais de manière progressive.
D'accord. Une fin de la MINUSMA qui se prépare, est-ce que vous partagez cette logique?
Bon, je partage la logique parce que ce qu'on est en train de voir comme scénario, là, ça tend vers cela. Donc maintenant, il faut même voir en dehors des Ivoiriens qui disent qu'ils vont rentrer. Les militaires ivoiriens qui avaient été arrêtés sont arrêtés parce qu'ils étaient dans la sécurisation des Allemands, je crois. Donc maintenant, le fait qu'eux, ils sont partis, mais qui va sécuriser les Allemands maintenant? Qui va sécuriser les locaux que les Ivoiriens sécurisaient? Donc maintenant, les Allemands aussi vont se voir affaiblis. Et ils vont se dire, mais la France, qui est le pays colonisateur du Mali, n'est pas là. L'Angleterre est partie. le Danemark est parti, tel pays est parti, qu'est-ce que nous allons rester faire ici? Nous plions bagages, nous rentrons chez nous aussi. Donc c'est la fin.
La France n'a pas quitté seulement le Mali, mais la France aussi a annoncé qu'elle va quitter tout le Sahel.
Oui, mais ça c'est la force Barkhane. Mais la MINUSMA même, c'est la France, on peut dire, parce que tout le les partout où il y a les commandements, là, c'est la France qui détient ces différentes têtes là. Donc si c'est pas ça, on voit. La MINUSMA ne pouvait pas venir au Mali sans l'aval de la France aussi. Les Nations Unies vont saisir, ils vont dire on va envoyer ça, mais c'est avec l'accord de la France que la MINUSMA va venir. Et la France et la MINUSMA va rester sous le contrôle et le commandement de la France aussi. Jusqu'à présent, c'est la France qui est là. Hein. Il ne faut pas qu'on se leurre. On dit la MINUSMA, mais c'est la France qui est derrière tout cela.
Alors, comment est réglementé alors le départ au sein de la mission de la paix?
Mais réglementer, il n'y a pas deux façons de réglementer, que les autorités s'assument, qu'ils tiennent le langage de la vérité et puis du bon partenariat. Vous faites appel à la France ou à qui de droit, vous allez venir avec eux, vous allez discuter dans un franc-parler, quoi. Donc vous avez vu. Donc maintenant, au lieu de faire des petits jeux, des gens sortent par-ci, d'autres rentrent par-là, il faut chasser la MINUSMA. Nous, nos autorités sont là à dire que non, on va maintenir la MINUSMA, ou bien il faut, je ne sais pas, changer de stratégie d'intervention de la MINUSMA. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ce discours, que les autorités disent finalement la vérité au peuple malien, parce que la RI cause plus de dégâts que de solutions pour un pays. Bon, vous savez, si on est à Bamako seulement, on croit que tout est beau. Bamako n'est pas le Mali. Le Mali, c'est ailleurs. Le Mali, c'est là où les villages sont en train d'être ratissés de la carte du Mali. Le Mali, c'est là où les bétails sont en train d'être enlevés. Le Mali, c'est là où les femmes sont en train de violer, tuer les hommes, tuer, égorger, souvent. Donc le Mali, c'est là où il n'y a même pas, où les Maliens sont privés de tous les droits, de tous leurs droits constitutionnels. Et le Mali, c'est là où l'État est absent. Aujourd'hui, il faut que nos autorités revoient la situation d'une façon ou d'une autre, qu'ils sachent que aujourd'hui, le Mali d'aujourd'hui n'est pas comme le Mali d'hier. Aujourd'hui, le Mali existe, mais attention. Attention, le Mali court un grand danger aussi. Et souvent, je me pose la question, est-ce que les gens se rendent compte du danger que court le Mali? Il faut voir.
Quel est le danger que court le Mali?
Le danger qui court le Mali, la bande des trois frontières, la zone là, du Niger jusqu'au Burkina, traversant le Mali, là, c'est un grand vide qui est là. Donc, tous les villages, tous les hameaux que nous avions auparavant n'existent plus. Il y a beaucoup de gens qui disent « je vais aller chez moi ». Mais combien de Maliens ont perdu les chiens? Ils n'ont plus de chiens. Si vous venez vers le centre, à Nyono tout près, vous allez à Songo, vous allez quelque part, vous allez trouver qu'il y a des villages qui ont été ratissés. Donc, c'est pourquoi moi je dis qu'il faut que nous fassions beaucoup attention. Nous qui sommes dans les grandes villes à Bamako, qui n'avions jamais voyagé, nous qui n'avions jamais été au centre, au nord, surtout pour aller nous voir la réalité, nous sommes là à occuper les boulevards, nous sommes là à sortir des rues, nous sommes là à être derrière des micros en tenant des gros discours ou bien des grosses paroles qui n'avancent pas du tout. Les autorités militaires savent bien ce qui se passe au Mali profond. Ils savent la crise qui est là. Mais qu'ils sortent, qu'ils disent la vérité aux Maliens. Aujourd'hui, il faut voir, quitter Ansongo pour aller à Gao. Qui peut le faire? Quitter Gao pour aller à Ansongo, quitter Ansongo pour aller à Labezanga, en passant par Ouattaguna. Ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Souvent, on dit qu'on n'attaque plus les camps, les militaires ne sont plus tués, les militaires ne fuient plus, des choses comme ça. Mais les villages sont en train d'être ratissés. Tout est en train de partir. L'armée monte en puissance, certes. Mais faites quelque chose pour secourir les pauvres populations pour lesquelles vous avez prêté serment de défendre l'intégrité du territoire, de sécuriser les personnes et leurs biens. Aujourd'hui, si ce n'est pas les localités dans lesquelles on trouve les groupes des chasseurs d'oiseaux et autres, il y a la majorité des communes, sinon des villages qui sont sous accord des djihadistes. il faut voir, par exemple Kourou ou Bankas qui n'a
que... Est-ce que l'aménagement n'a pas sa part de responsabilité dans ça?
Mais l'aménagement, c'est pourquoi moi je dis, il faut essayer de spécifier le rôle de l'aménagement. Et l'aménagement était venu pour quelle localité? Est-ce que l'aménagement est là pour le centre? L'aménagement était venu uniquement pour le nord, là où il y a les gens qu'on appelle les rebelles, qui sont les groupes signataires aujourd'hui, qui ont un pied dans la rébellion, ils ont un pied dans le terrorisme, un autre dans le djihadisme. Finalement, on ne sait même pas qui ils sont. Donc l'aménagement est juste venu pour ces régions du nord et non les régions du centre. C'est le terrorisme et non le djihadisme. Mais comme c'est les Blancs là, ils donnent toutes sortes de noms, mais c'est à nous maintenant de chercher à savoir le nom qui est bien choisi pour le faire. Et puis tout ce problème, vous savez Imran, quand le ministre, moi j'ai été tellement déçu quand le ministre de la Réconciliation était parti à Banyangara et il a dit aux gens, il faut signer avec les djihadistes en attendant que l'État soit prêt. C'est une déception ça. On ne peut pas comprendre ça. Comment est-ce qu'une autorité de la République peut dire cela? Et si jamais ces terroristes, ces djihadistes, ils sont là, ils vont endoctriner ces populations qui sont là. Et les populations vont dire, vaut mieux que nous restons avec ces gens que d'être sous le contrôle du gendarme, du policier ou du juge de l'administration malienne. Ça ne donne pas du tout espoir et ça n'encourage pas du tout.
D'accord. Est-ce que les autorités maliennes elles-mêmes sont écoutées par rapport à cette mission des de Nations Unies? Comme vous le dites, le Mali a toujours demandé à ce que la mission de l'aménagement soit adaptée au contexte actuel.
Oui, bon, vous savez, le dossier de l'aménagement a tout le temps été défendu par la France. En l'occurrence, au niveau du Conseil de sécurité. Donc, maintenant, le bout du... c'est-à-dire la tension diplomatique qui existe entre la France et le Mali, est-ce que la France va aujourd'hui s'hasarder à partir encore défendre le dossier malien à l'ONU? Moi, je pense que c'est une question à laquelle l'opinion pourra répondre. Au regard du contexte actuel que traverse le Mali. Donc, maintenant, la question de résorber ou d'assurer l'après MINUSMA ne serait que, c'est-à-dire n'incombe, cette responsabilité incombe particulièrement à l'État. C'est à l'État de prendre à bras le corps cette question de sécurité. Non seulement en continuant de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée sur les théâtres d'opération, en les dotant de tous les moyens nécessaires et requis pour que les forces de défense soient en mesure d'anéantir les forces du mal. Et deuxièmement, que les autorités maliennes parviennent à convaincre l'opinion nationale que l'État malien est en mesure d'assurer leur propre sécurité.
Alors, comment empêcher d'autres types de retraits au sein de l'aménagement?
Moi, je pense que stratégiquement, on ne peut pas empêcher le retrait des autres pays qui sont dans l'aménagement, pas du tout. Comme je vous ai dit à l'entame de mes propos, tous les pays sont souverains. Ils peuvent faire le retrait de leurs troupes au moment opportun, au moment qui leur semble être favorable. Donc, maintenant, moi, je pense très sincèrement que cette histoire de aménagement est en train de prendre fin. Maintenant, il faut que cette fin-là soit le début de la restauration de la souveraineté de l'État malien. Moi, je pense que cette situation doit être vue de très près par les autorités de la transition.
Voilà, c'est sur ce mot que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur quelle analyse du retrait annoncé de certaines forces de l'aménagement. Et nous étions avec Paul Oula, analyste sécuritaire, Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali. Malheureusement, Ali Tunkara était indisponible. À la régie vidéo, Salim Diouara, à la mise en onde de Nuhun Giré, à la coordination Sekou Gadjigo. Je suis Imran Akilou Maïga. Chers invités, auditeurs, vous avez la possibilité de réécouter ce débat sur notre site web www.studiotamani.org. À demain pour un autre débat.
Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.